Les relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud, tel est le thème de notre débat aujourd'hui. Précisons-le d'emblée, il s'agira moins des relations d'État à État entre Berne et Pretoria que du principe des relations économiques et commerciales avec un pays où la discrimination raciale est légalisée, de la présence active de plusieurs grandes entreprises suisses dans un pays où règne un système condamné par les autorités suisses. Je veux parler de l'apartheid. Pourquoi avoir choisi l'Afrique du Sud qui n'a pas le monopole de la discrimination raciale? Eh bien, d'abord parce que l'ancienne colonie britannique est un cas privilégié des relations économiques de la Suisse. Elle est, sauf erreur, le premier partenaire de la Suisse en Afrique et la Suisse y est le quatrième investisseur. Ensuite, parce qu'au dire du petit Larousse lui-même, l'Afrique du Sud est un des rares États au monde où le problème racial demeure entier. Enfin, parce que ce problème a été relancé par la publication d'un ouvrage rédigé avec l'appui du Conseil œcuménique des Églises et du mouvement anti-apartheid de Suisse, et que ce livre a suscité pas mal de controverses dans l'opinion publique suisse. Cela dit, nous sommes bien conscients du caractère particulier de ce sujet. Et pourtant, même si les conditions locales sont différentes, même si les critères d'appréciation sont divers, même si les degrés d'urgence ou de gravité sont propres à chaque pays, nous pensons que, dans la mesure où il peut avoir une valeur exemplaire, le cas de l'Afrique du Sud mérite d'être posé dans le cadre de nos entretiens. Nous nous efforcerons de le poser en termes généraux et caractéristiques. Et pour commencer, un rappel qui vaut pour n'importe quel cas, je le formulerai sous la forme d'une double constatation. Primo, de la neutralité de la politique extérieure suisse découle le principe de l'universalité de ses relations extérieures. Secundo, garantie par la Constitution fédérale, la liberté du commerce et de l'industrie empêche la Confédération de s'immiscer dans les affaires des entreprises suisses, notamment dans le développement de leurs exportations et de leurs importations. Il y a une exception, vous la connaissez, c'est celle des exportations d'armes soumises à une législation particulière. Et voilà, maintenant, les personnes présentes à ce débat vont se présenter. Et tout d'abord,
Alain Perrault, pasteur à Genève et l'un des signataires de la préface du livre cité Suisse-Afrique du Sud.
Simon-Pierre Jacquot, chef de l'état-major central du groupe Sibagaigi à Bâle. Je me considère, sans être mandaté officiellement, comme un représentant de l'industrie suisse.
Gilbert Rist, responsable du Centre Europe Tiers-Monde qui a édité le livre cité par M. Margot.
Ernst Meyer, directeur de l'Association Suisse-Afrique du Sud. Dans ces qualités, je ne m'exprimerai pas au nom de ces firmes qui sont membres, mais dans mon propre nom seulement.
Je vous remercie. Messieurs, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je m'adresse plus particulièrement à Messieurs Perrault et Rist, et j'aimerais qu'ils nous disent en quoi l'activité d'une grande entreprise suisse en Afrique du Sud peut contredire la politique extérieure de la Confédération, c'est-à-dire cette politique au nom de laquelle M. Spuller, en 1968, a nettement condamné la ségrégation raciale. Est-ce que M. Rist veut bien répondre?
Oui, j'aimerais répondre pour dire que, comme vous l'avez très justement remarqué, la thèse suisse, si l'on peut dire, est qu'il y a étanchéité entre deux domaines, l'un étant la politique et l'autre l'économique. Je pense que c'est la thèse du gouvernement, même si le gouvernement a condamné l'apartheid sud-africaine, il n'a pas pour autant officiellement réprouvé le régime sud-africain, et c'est plus ou moins la thèse de l'industrie que, et encore là peut-être faudrait-il mettre des nuances, que les problèmes économiques sont distincts des problèmes politiques. Cependant, je crois que ça n'est pas du tout la thèse du gouvernement sud-africain. Le gouvernement sud-africain est lui-même enchanté du fait que les entreprises suisses investissent en Afrique du Sud parce qu'il sait que ces investissements constituent pour lui un soutien financier et aussi un soutien moral appréciable. Je pense qu'une société comme celle de M. Meyer à laquelle participent les entreprises suisses est un bon exemple de cette image que les industriels suisses veulent donner de l'Afrique du Sud, image favorable. Et ça n'est pas non plus la thèse des Sud-Africains eux-mêmes, j'entends par là des Africains noirs qui sont la majorité du pays, qui eux prétendent, c'est la thèse en tout cas de l'African National Congress, c'est la thèse du Black People's Convention, qui prétendent, à mon avis à juste titre, que les investissements privés dans le pays de l'apartheid constituent un soutien à l'Afrique du Sud. Alors le gouvernement le dit clairement, c'est la raison pour laquelle le gouvernement visite des entreprises suisses lorsqu'elles sont inaugurées. Le gouvernement sud-africain admet donc qu'il y a un rôle positif pour lui de ces entreprises, et les opposants au régime sud-africain admettent aussi cette même thèse, puisqu'ils combattent précisément l'implantation des entreprises suisses dans le régime qui soutient l'apartheid.
J'aimerais alors poser une question plus précise à M. Perrault. Si l'activité économique de la Suisse ou d'entreprises suisses en Afrique du Sud contredit la politique étrangère suisse, est-ce qu'on peut dire qu'elle exclut normalement des relations diplomatiques, ou elle est exclue par les relations que la Suisse entretient au niveau des gouvernements?
Je ne répondrai pas de manière catégorique à cette question, M. Margot. Quand vous dites contredit-elle la politique du gouvernement suisse, de la Suisse, je dirais qu'elle contredit la politique de la Suisse, la grande politique telle qu'elle s'est exprimée par l'ambassadeur Lindt, vous avez cité, je crois, dans votre introduction, où il a condamné très radicalement l'apartheid à la Conférence internationale des droits de l'homme à Téhéran en 68. Mais je dirais qu'elle contredit ce que nous souhaiterions que cette politique soit ou devienne. Et alors là, je voudrais, vous avez cité le livre « Suisse-Afrique du Sud », inscrire cette étude dans la ligne du mouvement œcuménique des Églises. Parce que je crois que ça répondrait indirectement à votre question. Les grandes assemblées œcuméniques du mouvement œcuménique, réunies à Evanston en 54, à Nouvelle-Delhi, ensuite à Uppsala, la dernière en 68, ont fait des déclarations de plus en plus précises condamnant le racisme et singulièrement le racisme en Afrique du Sud. Et alors, convaincue qu'elle était que l'évangile libérateur ne devrait pas seulement changer les hommes, mais en les changeant, devrait transformer les structures d'oppression. Et le racisme, surtout quand il est inscrit dans la constitution d'un pays comme en Afrique du Sud, est une, parmi d'autres bien sûr, mais particulièrement néfaste de ces structures d'oppression. Alors depuis Uppsala, les églises ont compris qu'elles ne pouvaient pas se contenter de déclarations, qu'elles devaient traduire ces déclarations en actes, d'où le programme de lutte contre le racisme du Conseil œcuménique et la plus récente décision que vous connaissez, qui a été prise à Utrecht en 1772. Par le comité central du Conseil communautaire des Églises, de se dégager financièrement.
Financièrement.
De se dégager financièrement, donc, de toute relation commerciale, de toute maison investissant en Afrique du Sud. Alors, notre étude s'inscrit très nettement dans cette ligne-là. Ça n'a pas été une invention, une création spontanée. Elle est dans cette ligne, qui est une ligne, je tiens à le souligner comme chrétien, évangélique, théologique et finalement éthique. Alors bien sûr, cette ligne-là n'est pas forcément prise en charge par le gouvernement de notre pays. Nous le souhaiterions, parce que je crois que tous les hommes de bonne volonté pourraient aussi s'inscrire dans cette ligne, pas seulement les chrétiens, nous sommes un État laïque. Et alors là, si vous permettez d'ajouter mon désir d'être très modeste porte-parole des Africains dans leur ensemble pour placer notre débat dans le cas très général, en même temps très, très concret de l'Afrique. Notre ambassadeur à l'OUA, M. Langenbacher, a perçu très clairement l'image, n'est-ce pas, l'image ambiguë que nous donnions de notre pays dans les milieux africains. Dans un discours qu'il a fait à Addis Abeba, il a posé la question, cette Suisse neutre avec ses traditions démocratiques et humanitaires est-elle réellement digne de foi pour l'Africain? L'Afrique voit des millions de francs suisses investis en Afrique du Sud, elle voit nos florissantes relations commerciales avec ce même pays, les bénéfices nous faisons sur le dos des Noirs. Vous professez le droit à l'humanité, mais pourquoi ne nous aidez pas plus, me demandaient récemment mes collègues africains.
Il est certain qu'on pourrait voir aussi alors une contradiction entre le fait que M. Spuller, en 1968, il était certainement l'interprète du Conseil fédéral à condamner un régime, à condamner cet apartheid, mais qu'en fait, la Suisse n'en a pas pour autant rompu ses relations diplomatiques avec Pretoria. Il y a donc là aussi, si on le veut, est-ce que c'est ambiguïté ou est-ce que c'est respect du principe de l'universalité de nos relations d'abord et puis ensuite condamnation d'une politique. Mais plutôt que d'approfondir cette question-là, il faudrait d'abord un représentant de notre département politique pour répondre à cette question. J'aimerais maintenant entendre l'opinion des représentants de ces entreprises qui ne tiendront peut-être pas le même langage, mais je les invite alors à prendre position.
Écoutez, si vous permettez, je crois que nous partons d'une base commune qui est la condamnation de l'apartheid. Encore que je pense que nous la condamnons dans le meilleur sens du mot, alors que vous l'exécutez sommairement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais
Vous dites nous la condamnons et vous l'exécutez. De qui parlez-vous?
Mettons que j'oppose les auteurs du livre à notre position d'industriel, si vous voulez.
Oui.
Mais sur cette base de condamnation, il s'agit de savoir quelle est la réaction. Et alors la réaction des auteurs du livre, que je n'arrive même pas à comprendre personnellement, qui est de dire le boycott, le départ, c'est la solution. C'est ça que je ne peux pas admettre. Parce que nous prétendons amener aussi des solutions pour un changement vers une vie plus humaine, plus correcte là-bas. Et si M. le pasteur Perrault vient de dire que l'industrie faisait des bénéfices sur le dos des Noirs, j'ai noté ses paroles,
M. Langenbacher a dit.
Vous l'avez repris. Alors, je ne peux pas accepter ces termes, parce que je pense que ce n'est pas sur le dos, mais d'abord d'une façon un peu triviale pour le ventre et surtout pour la tête. Parce que c'est toute la question de la formation de ces Noirs dans lequel nous jouons un rôle énorme, et c'est le biais par lequel nous pensons que nous jouons un rôle social extrêmement important en Afrique du Sud.
J'aimerais bien quand même que vous précisiez ce rôle social.
Eh bien écoutez, c'est une question d'abord d'égalité, n'est-ce pas? Nous donnons des salaires égaux aux Noirs et aux Blancs pour travail égal. On pourrait encore aller dans le détail, mais surtout nous les formons. C'est-à-dire que nous leur apprenons peu à peu à des métiers qu'ils n'étaient pas habitués de faire et que nous élevons en somme tout le potentiel d'éducation de nos ouvriers. Il y a de grandes firmes suisses, il y en a de plus petites, la nôtre n'est pas très importante en Afrique du Sud, mais enfin nous pensons que nous participons à l'amélioration de la vie sociale, non seulement par les questions de charges sociales qui nous sont aussi là-bas, qui nous reviennent comme ailleurs, mais surtout par la formation sur le tas, c'est-à-dire au poste de travail que nous donnons aux Noirs. Et c'est ce que souhaite d'ailleurs même le gouvernement sud-africain, malgré le fameux job reservation. Il y a une phrase très typique.
Est-ce que je pourrais vous demander de préciser ce que vous entendez par job reservation?
C'est-à-dire que, vous savez, je ne connais pas la loi sud-africaine dans tous ses détails, mais enfin, dans le principe, c'est qu'en tout cas, jusqu'à un certain temps, et maintenant, heureusement, de moins en moins, certains emplois étaient réservés aux Blancs et n'étaient pas possibles aux Noirs. Mais il y a une phrase d'un discours récent du ministère du Travail qui, en le traduisant un peu librement...
De Pretoria, non?
De Pretoria, c'est ça, qui dit que aucune attitude du gouvernement, de son gouvernement, même pas le fameux job reservation, ne doit empêcher les entreprises d'entraîner les Bantous sur place pour devenir peu à peu des travailleurs plus élaborés, plus capables d'un travail plus difficile.
Monsieur Meyer, vous connaissez bien l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez aussi cette impression que les entreprises suisses qui sont installées là-bas, par le biais du domaine social, peuvent avoir une influence politique bénéfique?
Certainement. Pas seulement les entreprises suisses, mais l'activité économique tout entière, en général, tend à émanciper ceux qui sont pauvres, ceux qui sont en détresse. Dans le temps, quand les Suisses étaient encore pauvres, il leur fallait d'abord du travail, des places de travail pour se développer et pour obtenir une indépendance économique qui toujours précède l'indépendance politique, tant personnelle que de peuple. Et dans ce sens, je trouve que l'activité de nos firmes suisses peut seulement bénéficier aux Noirs. Mais si vous me permettez, je veux aussi revenir une fois, comme juriste, à cette remarque qui a été répétée tant de fois aujourd'hui déjà, que notre conseiller fédéral n'ait jamais condamné la politique d'apartheid, ce qui n'est pas exact. Je n'ai jamais trouvé un Suisse plus ou moins intelligent qui n'a pas, comme du point de vue humain, ne s'est pas distancé d'une politique de discrimination vis-à-vis des autres à cause de la couleur de la peau ou autre. Mais de là jusqu'à dire que si un membre de notre gouvernement, comme M. Spuller, a condamné moralement une pareille politique, et que M. Lindt, un ambassadeur, aussi a condamné moralement, et il a dit très clairement, moralement, pareille politique, de venir à dire que notre gouvernement, par l'interprète M. Spuller, se soit prononcé contre la politique d'apartheid, ce n'est pas juste. Notre gouvernement ne s'est jamais mêlé dans cette politique interne de l'Afrique du Sud, et il n'oserait pas de s'y mêler. Donc on a le fait que notre gouvernement maintient des relations politiques normales et avec tous les pays avec lesquels nous maintenons de telles relations, l'économie en général est libre de traiter des affaires. C'est un principe général auquel notre économie, toutes nos grandes firmes se sont toujours conformées.
Vous avez raison dans la forme, puisque j'ai moi-même affirmé tout à l'heure que M. Spuller avait, en 1968, à la suite d'une déclaration de M. Lindt à Téhéran, condamné la ségrégation raciale. Je tiens à préciser qu'une condamnation morale par un gouvernement, à mes yeux, est une condamnation politique, mais qu'effectivement, il n'a pas condamné explicitement le système appliqué en Afrique du Sud, ça, certainement pas.
Je ne crois pas, M. Margot. Ce n'est pas le gouvernement qui a exprimé une opinion à ce sujet. C'est M. Spuller qui, comme ministre des Affaires étrangères, a exprimé son opinion personnelle qui vraiment est l'opinion, je crois, de 99% des Suisses.
C'est ça. Et l'opinion du Conseil fédéral, puisque...
Pas comme Conseil fédéral, mais des membres du Conseil, chacun individuellement. Ce n'est pas la même chose.
Monsieur Rist.
Oui, je pense qu'il ne faudrait pas revenir dans ce débat. Je pense que M. Spuller a dû peser ces mots, puisque c'est une intervention d'un de vos, je ne veux pas dire de vos amis, mais enfin d'un industriel, n'est-ce pas, qui a conduit M. Eisenring à faire cette
Spuller.
C'est une intervention d'un industriel qui a conduit M. Spuller à faire cette déclaration, et je pense par conséquent qu'il n'a pas pris ça sur lui tout seul, mais qu'enfin c'est une discussion du Conseil fédéral. Mais je ne veux pas revenir sur cette...
Il l'a fait à son propre chef, ça,
bon,
c'est un fait.
C'est l'opinion de M. Meyers. Il faudrait, comme disait M. Margot, pour débattre de la politique fédérale, avoir ici un représentant qualifié pour nous départager.
Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que M. Spuller a fait cette déclaration devant le Conseil national, ouais. Et que lorsqu'un membre du gouvernement fait une déclaration devant les chambres, il le fait toujours au nom du collège, rarement son nom personnel.
Mais...
Je ferme la parenthèse.
Je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Jacquot tout à l'heure, parce que je crois que c'est précisément l'enjeu du débat. Quand il dit, n'est-ce pas, que l'entreprise poursuit en Afrique du Sud un but social, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu en Afrique du Sud, dans certaines entreprises, et notamment dans les entreprises suisses, un certain nombre d'augmentations de salaires, parfois importantes, qu'il faut tenir en compte. Alors, on peut dire... L'industrie suisse développe socialement les Africains. J'aimerais faire remarquer deux choses à ce propos. D'abord que le problème n'est pas seulement un problème économique. Et que précisément ce que les Africains souhaitent, bien sûr, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, mais c'est aussi un partage du pouvoir politique. Et ça, je ne pense pas que les entreprises suisses... fasse quoi que ce soit qui aille dans ce sens, alors que c'est ça le vœu numéro un des Africains, c'est d'obtenir à l'indépendance politique.
Mais est-ce qu'on peut dire que les entreprises font quelque chose dans l'autre sens ? Elles
alors,
n'y contribuent
j'y viens,
pas.
J'y viens. Oui. Je voulais simplement faire remarquer, en passant à M. Meyer, que c'est précisément la distinction fondamentale entre le cas suisse et le cas sud-africain, c'est que dans le cas suisse, bien sûr, pour nous développer économiquement, nous avons eu besoin d'investissement, mais que le préalable était que les Suisses étaient libres et que chacun avait le droit de vote dans ce pays, alors que ça n'est pas le cas en Afrique du Sud. Donc, en développant l'économie sud-africaine, on développe l'économie, si vous me permettez, blanche de l'Afrique du Sud. Oh. Et il y a quelques retombées, M. Jacquot, sur les Africains. Et là où je pense que vous auriez dû citer plus exactement le discours de M. Viljoen, parce que le ministre du Travail sud-africain lui-même vous a demandé d'augmenter les salaires, Et il a dit que ce genre de mesures, n'est-ce pas, était favorisé par le gouvernement et que ça n'était pas contraire à l'intérêt des industriels parce que ça permettrait aux travailleurs bantous de devenir plus rentables. C'est ça la citation du discours de M. Viljoen, et ce n'est pas de devenir des travailleurs plus qualifiés. M. Viljoen a dit clairement...
Le mot anglais, c'est « efficient hein? ».
C'est « profitable
oh, ». Et puis, pardon,
profitable.
Je crois qu'on ne veut pas se quereller sur des mots, mais j'aimerais bien, alors que M. Jacquot ou M. Meyer répondent sur la question de savoir si vraiment là, l'activité des entreprises suisses peut contribuer à la promotion politique des Noirs.
Ah oui, mais ça, j'en suis persuadé. Seulement, évidemment, d'une façon indirecte, parce que nous n'avons pas à nous mêler la politique intérieure, n'est-ce pas? Le respect de tout gouvernement et de toute loi locale est inscrit en lettres d'or sur nos frontons. C'est pas ça, sinon il n'y a plus d'économie possible non plus. Seulement, ça n'empêche pas d'avoir une action. Et à ce propos-là, j'aimerais citer alors une phrase, cette fois tirée des principes de travail d'une firme internationale, qui n'est d'ailleurs pas la nôtre, et qu'il dit bien, justement, je traduis aussi librement de l'anglais, n'est-ce pas, que sur place, chacune des filiales de cette société doit se comporter selon les traditions et l'héritage culturel de ce pays et la politique du gouvernement. Bien que, en tout temps, ses représentants doivent avoir le courage de suggérer de nouvelles approches pour résoudre les conditions existantes.
Est-ce que ces suggestions, ça se fait ou bien?
Ah, mais bien sûr, n'est-ce pas, j'avais un exemple, je m'excuse, je ne dois pas prendre trop de temps, c'est très bref, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle les standards, n'est-ce pas, il y a, par exemple, pour faire une cantine pour des Noirs actuellement au sud de l'Afrique, ils ont droit normalement à tant de places par table, etc. Et lorsque nous avons construit une cantine et qu'elle nous a été soumise à Bâle avec ces standards, nous l'avons refusé. Et nous avons imposé les standards que nous imposerions dans le monde entier à tous les Blancs et à tous nos employés suisses ou pas suisses. N'est-ce pas? Il y a toujours des moyens dans un cadre légal qui doit être respecté de forcer peu à peu le passage, la transition vers des conditions sociales qui soient plus conformes à nos principes.
Mais en fin de compte, est-ce que vous imaginez qu'une entreprise pourrait céder aux exigences du gouvernement, même si ces exigences étaient contraires à la morale politique d'une entreprise?
Vous prenez là un point très délicat, parce qu'on ne peut pas régler cette question d'une manière schématique générale, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une limite. Je pense certainement.
Une limite morale et politique?
Oui, mais je ne peux pas le dire, je ne la vois pas en Afrique du Sud, très honnêtement et très directement, et je ne vois pas d'autres cas actuels qui pourraient maintenant faire suivre la discussion. Mais je reconnais avec vous qu'il y a certainement une limite quelque part, oui.
Monsieur Perrault.
Oui, pour la déterminer, il faudrait quand même une fois demander ceux qui sont les objets de toutes ces mesures, et ce sont les Noirs eux-mêmes. Donc, on a eu en Suisse, dans les dernières deux années, les visites de quatre Bantu leaders. Ils sont uniformes dans leur demande de ne pas retirer les investissements, mais de déployer même davantage d'efforts économiques pour aider leur peuple. Ils insistent tous de faire un effort de aussi faire des investissements dans leur bantoustan, ce qu'on appelle. Mais tous, uniformément, ont repoussé l'idée et les invitations de retirer les investissements pour aider à leurs compatriotes.
Nous parlerons tout à l'heure peut-être des solutions, M. Perrault.
Je voudrais répondre à M. Meyer, mais auparavant, pensant à ce qu'a dit M. Jacquot tout à l'heure, je voudrais constater avec vous que depuis 1948, donc l'accession au pouvoir du Parti nationaliste et raciste, jusqu'à nos jours, la courbe des investissements, vous devez être au courant, en Afrique du Sud, n'a fait que croître de manière absolument impressionnante. Et pourtant, cela a-t-il eu pour résultat un assouplissement de la politique gouvernementale à l'égard des conditions politiques, je dis bien politiques des Noirs, qui sont notre visée essentielle. La méthode, je la comprends, j'entre un peu dans vos vues, M. Jacquot, des petits pas, n'est-ce pas? On va petit pas après petit pas, pour autant qu'elle ait été pratiquée, et il semble qu'on l'invente maintenant et l'invoque depuis que la complicité de nos pays occidentaux avec l'apartheid était dénoncée, mais a-t-elle changé quoi que ce soit dans la condition politique des Noirs? Bien au contraire, on constate, ça il suffit lors de se pencher avec effroi et avec douleur sur toute la législation sud-africaine, au contraire, on constate durant cette période que les lois les plus dures et les plus répressives, où les lois sont devenues les plus dures et les plus répressives. Alors ça nous donne quand même singulièrement à penser quant au mur, n'est-ce pas, des lois auxquelles vous heurtez. Et alors, je voudrais ajouter ceci, au risque d'être un peu indiscret. Est-ce pour les beaux yeux des Noirs, en me tournant vers les responsables des investissements en Afrique du Sud, est-ce pour les beaux yeux des Noirs que vous investissez. Leur intérêt réel est-elle non pas votre principale motivation, ce serait trop demandé, il faut être réaliste, mais un de vos mobiles sincèrement avancés. Si vous l'affirmez, vous devez fournir alors le test de votre sincérité le jour où il y aura crise en Afrique du Sud. Révolte intérieure, changement de régime. Or, nous avons un exemple historique extrêmement probant. Après le massacre de Sharpeville en 60, les investissements ont commencé à déserter le pays. Il y eut un début d'ébranlement économique. Les rats quittent le navire. C'est un exemple historique. Et donc, c'est très important parce qu'il ne faudrait pas qu'il se renouvelle.
Vous avez posé une question. J'aimerais bien que ces messieurs aient le temps de répondre. On vous a demandé si c'était pour le beau jeu des Noirs.
Voilà, je dois représenter très brièvement la théorie moderne du profit, mais rassurez-vous, ça très, très bref. Il est évident qu'une société a comme premier but chronologique le profit parce qu'elle a besoin du profit pour remplir d'autres buts. Qui sont des buts publics, des buts sociaux. Alors, il est évident que nous sommes en Afrique du Sud, comme partout ailleurs, comme en Suisse, pour faire du profit, mais que ce profit doit nous permettre d'apporter l'élément social meilleur. Et je dirais encore un mot de cet élément social meilleur, c'est par exemple les subventions aux enfants de nos employés noirs pour faire l'école. Parce que malheureusement, je dois être d'accord avec vous, il est extrêmement malheureux qu'un enfant noir aujourd'hui doive encore payer pour aller à l'école primaire. Mais nous considérons maintenant comme un de nos programmes d'action pratique et urgent d'aider davantage nos employeurs noirs pour l'éducation de leurs enfants. Parce que, ça me lie à votre question de politique, la politique c'est très bien, mais je pense qu'il faut d'abord l'éducation pour atteindre une certaine maturité avant de parler trop de liberté politique. Et malheureusement, plusieurs exemples dans l'histoire montrent qu'on a été très vite.
J'aimerais maintenant, très brièvement, qu'on me donne une autre solution. Est-ce que c'est le boycott? Est-ce que c'est le retrait? Est-ce que c'est des conditions politiques plus sévères? Est-ce que vous voyez, je m'adresse à M. Rist en particulier, est-ce que vous voyez des conditions?
J'aimerais dire une chose. Je suis l'avocat du boycott de l'Afrique du Sud. Contre M. Meyer, je ne pense pas que les chefs des Bantoustans soient en fait, premièrement, soutenus par leur peuple, qui soit représentatif de quelque chose.
Oui, là, vous répondez à une autre question. Je vais, si vous voulez, vous êtes partisan du boycott. Oui. Je vous repose une question et je la pose à tout le monde. Est-ce que vous pensez que le boycott sera favorablement accueilli par la population noire?
Je pense.
Certainement.
Certainement. Pas du tout.
Et d'ailleurs, le Conseil économique lui-même fait maintenant promouvoir que dans des pays communistes, il ne faut pas demander qu'on fait du boycott, mais qu'il faut utiliser les contacts économiques pour influencer la libéralisation de la vie dans des pays communistes. Et je ne vois pas pour quelle raison ce serait différent en Afrique.
C'est la solution.
Monsieur Perrault.
Nous n'attendons pas des investisseurs, croyez-le bien, nous ne sommes pas naïfs à ce point, qu'ils retirent leur filiale d'un seul coup, tambour battant. Mais en revanche, nous pouvons attendre des plus lucides d'entre eux. Et c'est qu'ils prennent conscience du problème moral et politique posé. Et que cela les amène à tout le moins renoncer à accroître leurs investissements et à se décider à se tourner peut-être vers des États africains autonomes, quitte à prendre certains risques, et à diminuer graduellement le champ de leur activité en Afrique du Sud au fur et à mesure où ils verront bien que leur tentative de progrès sociaux petit par petit se heurtera vraiment à toutes les lois de l'apartheid. Mais ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est que ces industriels se contentent de quelques augmentations de salaire par lesquelles justifieraient leur présence au pays de l'apartheid. Ça nous apparaîtra toujours des réformettes à l'intérieur d'un système inique qu'on contribue par ailleurs à consolider par sa présence en Afrique du Sud. Et alors là, je voudrais dire, il faut interroger les leaders que nous estimons responsables et lucides. À commencer par feu Albert Luthuli, qui s'est prononcé catégoriquement, dont vous savez, prix Nobel de la paix pour le boycott économique de l'Afrique du Sud. Donc, quand nous pensons à tous les leaders du Congrès national africain, du Pan-Africain Congrès également, ils sont prononcés absolument catégoriques.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont directement concernés?
Mais directement concernés. Et je passe. Si vous direz que je fais parler à un mort, Luthuli, ou bien des exilés comme les chefs du Congrès national, je pense à la Convention et qui a conclu catégoriquement au boycott. Il faut ajouter tout de suite que le président de ce Black People Convention vient d'être assigné à résidence.
Où est la lucidité, M. Perrault?
Je vous en prie, Monsieur Jacquot.
Non, parce que je doute fort, n'est-ce pas? Vous pensez que la lucidité, c'est votre solution au boycott. Moi, je prétends au contraire que c'est fermer les yeux sur les réalités de la vie et annoncer des catastrophes qui, humainement, seront peut-être encore pires que le lent chemin que nous sommes en train de gravir peu à peu.
Mais je pense, Monsieur Jacquot, que les chefs africains sont absolument conscients que ça sera peut-être catastrophique, mais ils pensent que c'est moins catastrophique d'avoir peut-être un petit peu plus d'argent que de ne pas avoir la liberté politique. Et la catastrophe économique, c'est une chose, mais pour le moment, on est au plein milieu de la catastrophe politique. Et je pense qu'il est très dommage que cette limite morale dont vous parliez tout à l'heure, vous ne la voyez pas dans cette catastrophe politique que constitue l'Afrique du Sud.
Vous n'avez pas peur du bain de sang, et ça, je ne peux pas l'admettre.
Monsieur, et les chefs noirs légitimes, que vous n'acceptez pas, mais ceux qui sont...
Nommés par Pretoria.
Non, pas du tout, ce sont des chefs de tradition qui ont toujours été acceptés par leur peuple, et ces chefs qui sont d'ailleurs en conflit avec le gouvernement de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, ces chefs légitimes, qui sont ceux qui ont le pouvoir dans leur pays, sont de l'avis absolument contraire à ce que vous
voulez. Maintenant, je suis obligé de vous interrompre, messieurs. Je ne vous demanderai pas, je ne vous poserai pas la question piège, consisterait à savoir lequel d'entre vous a vécu en Afrique du Sud.
Oh, ce n'est pas un piège.
Être une question piège lorsqu'on parle de catastrophe économique ou de catastrophe politique. Absolument. J'espère simplement que les propos tenus ici auront au moins eu le mérite d'inciter à la réflexion sur le problème général de la ségrégation, d'abord en relation avec le principe helvétique de la liberté du commerce, ensuite en relation avec le principe de l'universalité des relations de la Confédération. Où que vous soyez, auditeur, votre opinion à ce sujet nous intéresserait beaucoup. Faites-la nous donc connaître. Merci d'avance. Messieurs, je vous remercie.